Sous nos tropiques, si un jeune homme faisait la cour à sa belle et lui disait « Tu ressembles à une vache normande », on aurait de bonnes raisons de mettre en doute ses talents de Don Juan. Ah oui, mais s'il était récemment arrivé du Proche-Orient, il serait tout à fait excusable car les poètes arabes comparent les plus belles femmes à des vaches. Absolument. Et dans le Cantique des Cantiques, Salomon fait les plus beaux compliments à sa bien-aimée en utilisant des images qui ne nous sont pas habituelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais son élan romantique confirme bien mes dires et montre combien la culture affecte la perception des gens. Je lis ce passage. « Que tu es belle, ô mon ami, que tu es belle. Tes yeux ressemblent à des colombes dessous ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galaad. Tes dents ressemble à un troupeau de brebis passé aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Voici tes lèvres, comme un ruban écarlate, combien ta bouche est charmante, et tes tempes ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Ton cou ressemble à la tour du roi David, bâtie comme un arsenal. 1000 rondaches y sont pendues. Tous les pavois des héros, comme deux fans, sont tes deux seins, comme deux jeunes gazelles qui sont jumelles et qui vont paître parmi les lys. » Fin de citation. Je commence à lire le chapitre 4 du livre d'Amos. « Écoutez bien ceci, ô vache du Bazan qui demeurait sur les montagnes de Samarie, qui opprimait les pauvres, qui maltraitait les indigents, vous qui dites à vos maris « Apportez-nous à boire !» Verset 1. Le Bazan est un plateau situé à l'est du Jourdain, au nord de Galaad et au sud du mont Hermon. Cette région était réputée pour ses forêts, ses pâturages et ses troupeaux qui étaient les plus beaux de la Palestine. Le prophète apostrophe ici les femmes riches de Samarie, mais comme je l'ai dit, il ne les insulte pas, au contraire. Ce qu'il dénonce est l'attitude désinvolte de ces grandes dames qui menaient une vie de grand aise dans un confort obscène. Et le pire est que cela ne leur suffisait pas. Pour satisfaire leur avidité à posséder toujours davantage, elles poussaient leurs riches maris à exploiter les plus démunis. On peut se demander comment ils s'y prenaient, puisqu'il n'est évidemment pas possible d'extorquer ceux qui ne possèdent rien. Oui, mais il faut savoir qu'en Israël, selon la loi, tout le monde possédait un héritage et un patrimoine qui lui venait de ses ancêtres, et les pauvres étaient ceux qui n'avaient rien d'autre. Alors, les riches s'arrangeaient pour que ces démunis s'endettent pour les forcer à vendre leurs biens. La loi ne manquait pas de garde-fous, de règles protectrices pour prévenir ces abus. En effet, elle prévoyait que chacun, même celui qui était endetté jusqu'au cou, pouvait éventuellement récupérer sa terre et sa maison. Il faut savoir que la loi de Moïse comportait des éléments qui étaient d'une avancée sociale inégalée. Tous les 49 ans, le 10e jour du 7e mois, commençait la 50e année appelée jubilé. Ce mot dérive de l'hébreu qui signifie « corne de bélier, trompette ». Le mot jubilé vient de la coutume d'en proclamer le début au son de la trompette. Je lis le texte qui institue cette fête. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout le pays. Vous déclarerez une année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année. Et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. Vous fixerez le prix d'achat ou de vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé, et donc du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible, car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne lèse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Fin de citation. Comme chaque septième année était une année de repos sabbatique, et l'année du jubilé également, cela faisait deux années sabbatiques l'une après l'autre. En cette cinquantième année, le dixième jour du septième mois, qui était aussi le Yom Kippour, le grand jour des expiations, on proclamait au son de la trompette l'affranchissement de tous les Israélites asservis à des compatriotes, ainsi que le recouvrement de sa propriété familiale à quiconque, pressé par l'indigence, qui avait dû la vendre. C'était un peu comme si tous les 49 ans, on remettait toutes les pendules à l'heure de Dieu. Les terres ne pouvant se vendre que jusqu'au prochain jubilé, l'acquéreur ne payait en réalité qu'un usufruit proportionné à la durée de son occupation temporaire. Cette règle ne s'appliquait pas aux propriétés, maisons plus terres, situées dans une ville entourée de murailles, car elles étaient indépendantes des parts de la terre promise, allouées primitivement aux familles israélites par Moïse et Josué. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Par contre, les maisons de village, qui n'étaient pas entourées de murs, étaient assimilées à des fonds de terre et revenaient à leur réel propriétaire l'année du jubilé. Les maisons des Lévites, ceux qui étaient chargés du service du culte, étaient soumises aux prescriptions du jubilé, même si elles étaient à l'intérieur d'une ville entourée de murailles. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Comme tous les 7 ans, les terrains cultivables devaient être mis en jachère, Dieu avait promis pour la 6e année une récolte abondante qui suffirait aux besoins jusqu'à la prochaine récolte. Cette institution avait évidemment pour but d'empêcher la formation d'un paupérisme permanent et l'asservissement d'une classe de la population par l'autre. Elle reposait, comme celle de l'année sabbatique, tous les 7 ans, sur le grand principe formulé par Moïse où l'Éternel dit « Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient et vous êtes chez moi, des étrangers et des immigrés. » Fin de citation. Les Israélites étaient donc de simples locataires. Bien plus, leur personne appartenait à l'Éternel. Il dit « Les Israélites sont mes serviteurs parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Voilà donc pourquoi les Israélites ne sont pas libres d'aliéner définitivement leur liberté ou leur héritage. Même si cette institution a rarement été appliquée à la lettre, elle avait une grande valeur sociale, car elle enseignait le respect de la liberté individuelle, la restitution des propriétés aliénées et la pratique d'une vie simple. Le prophète Ésaïe utilise le jubilé comme une image des temps messianiques parce que c'est une figure prophétique de la situation sociale idéale qui prévaudra pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur ce monde. Alors, la dette de l'humanité ayant été acquittée sur la croix, toute personne humaine sera affranchie et n'aura pas d'autre maître que Dieu lui-même. La sainteté, l'amour, le bien-être et le repos régneront sur la terre. Dans son imposant discours le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait allusion à l'époque bénie du millénium quand il a dit « Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Cela dit et expliqué, si en Israël la justice est corrompue jusqu'à la moelle et si ceux qui sont chargés de faire respecter la loi se conduisent comme des requins, la société devient une jungle où les plus forts dévorent les faibles. C'est ce qui se passait en Israël Nord, la raison principale de la venue du prophète Amos en Israël pour prêcher. Il est venu avertir le peuple choisi qu'à moins d'un revirement spectaculaire de sa part, la nation sera sévèrement jugée. Surtout qu'aux maux sociaux s'ajoutait une moralité débridée et l'idolâtrie, ce qui n'est guère étonnant et qui explique pourquoi le royaume du Nord fut rayé de la carte. Amos dénonce donc l'exploitation odieuse des pauvres par les riches. Non seulement ça, mais ces femmes de Samarie disent aussi à leur mari « Apportez-nous à boire !» Or, il y a tout à parier que ce vin provenait d'une extorsion supplémentaire des pauvres par les riches. Le mot pour « mari » est intéressant parce qu'il est peu fréquent dans les Écritures et désigne très rarement un mari. Il veut plutôt dire « maître » ou « seigneur ». Mais Amos utilise ce mot pour se moquer de ses maris qui sont supposés être les maîtres chez eux, mais qui en réalité se comportent en serviteurs, obéissant au doigt et à l'œil à leurs femmes. Et la seule façon pour eux de satisfaire les goûts de luxe de leurs épouses est d'exploiter honteusement les pauvres gens. Ce sont les femmes qui oppressaient les misérables, mais par l'intermédiaire de leur mari. Je continue le texte. Le Seigneur l'Éternel a juré, aussi vrai que je suis saint, voici venir des jours où l'on vous traînera vous-même avec des crocs et votre résidu avec des hameçons. Verset 2. Ce résidu désigne les enfants qui n'ont pas été massacrés par les Assyriens. Pour la petite histoire, il faut savoir que la dernière partie de ce verset comporte des mots à la signification ambiguë, ce qui fait qu'ils ont induit en erreur les traducteurs de l'ancienne version grecque qui ont compris « Des exterminateurs pleins de fougue jetteront ceux qui sont avec vous dans des chaudrons pleins d'eau bouillante ». De toute façon, et ce qui est sûr et certain, est que Dieu n'est pas d'humeur à plaisanter. Pour bien souligner combien il est scandalisé par la conduite de son peuple ainsi que la certitude du jugement, il jure au nom de sa sainteté. Or, elle a été profanée par les péchés sans nombre des Israélites. L'image « voici venir des jours où l'on vous traînera vous-même avec des crocs » que nous présente le prophète fait penser à des animaux encordés que l'on traîne à la boucherie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des bas-reliefs assyriens montrent des prisonniers de guerre emmenés avec une corde fixée à des crochets perçant le nez ou la lèvre inférieure des captifs. C'est une représentation de la déportation à venir et ce qui est aussi arrivé à certains rois israélites. Je lis un passage. Alors l'Éternel fit venir contre les Israélites du Sud les généraux du roi d'Assyrie qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Parfois on dit de certains qu'ils sont accrochés à la drogue ou à un vice quelconque. Ici, les Israélites du Nord sont accrochés au péché, ce qui les destine au jugement, la mort ou l'exil. Je continue le texte. Vous devrez sortir par les brèches, chacune devant soi. Vous serez chassés vers l'Hermon. L'Éternel le déclare. Verset 3. Comme les murailles de Samarie seront détruites, il n'y aura pas besoin de passer par les portes pour sortir. Il n'y aura qu'à aller droit devant soi. Les femmes à qui Amos s'adresse seront simplement poussées à l'extérieur, puis enchaînées en file indienne, direction la Syrie. En route, elles devront forcément passer au pied du mont Hermon, situé dans les premiers contreforts du Liban, au nord d'Israël, puis elles devront traverser le Bazan. L'ironie du passage est que les vaches du Bazan, ligotées et maltraitées, sont devenues de la charogne de Bazan. Après avoir apostrophé les grandes dames du royaume, Amos va maintenant critiquer vertement et sur un ton ironique le culte formaliste que les Israélites pratiquent et par lequel ils croient pouvoir se décharger de leurs péchés et plaire à Dieu. Je continue le texte. « Allez donc à Bethel et transgressez la loi, et à Gilgal, transgressez-la encore plus, offrez tous les matins vos sacrifices et le troisième jour vos dîmes. » Verset 4. Ce verset est une sorte de parodie de l'exhortation du prêtre à des pèlerins venus à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Comme Bethel, Gilgal était un sanctuaire du royaume du Nord situé à environ 25 km à l'est de Bethel et à 2 km de Jéricho. Il y avait très certainement un veau d'or à Gilgal, bien que cela ne soit pas mentionné explicitement. Bethel et Gilgal étaient probablement les deux centres d'idolâtrie les plus importants du royaume des 10 tribus, car les Écritures ne disent pas grand-chose du veau d'or que Jéroboam Ier avait installé à Dan, à l'extrémité nord du pays. Un monument composé de 12 pierres ramassées dans le Jourdain avait été érigé à Gilgal pour commémorer la traversée du fleuve par les tribus d'Israël au moment de la conquête du pays de Canaan. C'est aussi à Gilgal que les Israélites avaient été circoncis, avaient fêté la première Pâque dans le pays promis et avaient dressé leur premier campement. Les Israélites accomplissaient des devoirs religieux, mais ceux-ci étaient dépourvus d'armes. Ils maintenaient pour l'apparence une adoration qui ressemblait aux prescriptions du système lévitique ordonné par la loi, mais ce n'était que des cérémonies vides, des rites sans valeur qu'il fallait faire pour, pensait-il, s'attirer les grâces du ciel, un peu comme les formules magiques ou de sorcellerie ou encore les gestes que font les gens superstitieux les vendredis 13. Il va sans dire que l'Éternel n'appréciait pas du tout ce genre de croyances et de comportements des Israélites du Nord et ils furent sévèrement jugés. Le déclin social et religieux que dénonce Amos présageait déjà l'attitude qu'adopteraient les chefs religieux juifs du 1er siècle et que Jésus a vivement critiqué. Je lis un passage. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Quand Amos dit « Allez et transgressez la loi », cet encouragement ironique à enfreindre la loi se rapporte à l'idolâtrie et aux relations avec les prostituées sacrées qui accompagnaient souvent les sacrifices offerts aux veaux d'or. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait « Allons à l'église pour y organiser une partouze ». Pour faire bon poids, bonne mesure, Amos exhorte les Israélites, toujours avec sarcasme, d'aller offrir la deuxième dîme, celle destinée aux pauvres, tous les 3 jours au lieu de tous les 3 ans comme la loi l'ordonne. Je continue le texte. « Faites fumer de la pâte sans levain pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires. Proclamez-les à haute voix puisque c'est là ce qui vous plaît, Israélites. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. » Verset 5. Amos poursuit son discours sur un ton mordant. Il encourage les Israélites à continuer leurs pratiques religieuses selon les règles strictes de la loi de Moïse, mais il sous-entend que de toute façon, ce qu'ils font ne sert à rien. C'est aussi utile qu'un coup d'épée dans l'eau parce que l'Éternel a en horreur le respect de la forme extérieure du culte quand l'adorateur n'y met pas son cœur. Je lis un passage. « Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes, j'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi, je suis las de les supporter. » Fin de citation. Les Israélites traitaient l'Éternel comme s'il était une vulgaire idole au service des hommes qui se satisferait de quelques rites par-ci, par-là. Ici, le prophète parle du sacrifice de communion qui avait pour but d'exprimer sa gratitude à Dieu et qui était accompagné de gâteaux pétris sans levain, parce qu'en général, dans les Écritures, le levain représente le péché. Non seulement les Israélites doivent strictement accomplir tous leurs devoirs religieux, mais il ne faut pas non plus qu'ils oublient de publier leurs bonnes actions sur tous les toits afin qu'elles ne passent pas inaperçues et qu'ainsi on puisse les applaudir. Les critiques que le prophète Amos adresse aux Israélites du Nord sont cinglantes, mais toujours d'actualité dans toutes les religions du monde, y compris dans le christianisme et même chez bon nombre de ceux qui se disent de vrais croyants.